Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouveau Comics Weekly. Nous sommes le 30 août et au programme une très très grosse semaine de comics avec un nombre de pages ahurissant puisque nous avons une grosse collection d'annual qui sort chez DC. Nous avons aussi une bonne collection de Marvel et quelques petits indés en stock. Je vous laisse découvrir ça tout de suite après le générique. Je suis Steve, vous écoutez Comics Weekly. Et avec moi cette semaine, beaucoup beaucoup de monde, puisque nous avons Sam.
Salut.
Mister Anemone.
Bonjour à tous.
Kinghead.
Ouais, salut.
Et Corwin, qui se met à la VO.
Bonjour.
Donc voilà, tu as décidé, puisque ça va être la numéro 0, de te lancer dans la VO.
Voilà, je m'y prends un petit peu avant.
Ouais, bah t'as raison, de toute façon ce sont des annuals, donc ça peut te permettre de pouvoir t'amuser, et puis il y a du Marvel, il y a tout ça. Et tu as lu du Marvel.
Oui. Ouais.
Et du très bon Marvel.
Oui. Très mauvais aussi.
On y revient tout à l'heure. Le gros focus de la semaine, une des très très grosses sorties de cette semaine qui était très attendue, c'était le Green Lantern Annual numéro 1. Avec Geoff Johns au scénario, Ethan Van Sciver au dessin. Donc Ethan Van Sciver de retour sur Green Lantern.
Ça fait plaisir.
C'est beau.
Ah, moi je préfère.
Tu préfères à Evan Reese?
À Doug Mankey.
À Doug Mankey, oui.
Je sais pas, Doug Mankey, moi j'aime beaucoup.
Moi aussi j'aime bien.
Bah je préfère Ethan Van Sciver quand même.
Ah, c'est difficile de comparer hein, parce qu'ils ont quand même des styles assez différents.
Ils ont des styles différents, ça c'est clair. Qui a envie de faire un petit peu le pitch, nous résumer cet annual de 50aine de pages, puisque oui, DC c'est pas foutu de notre gueule, c'est 4,99€, mais on a vraiment un double comic par rapport à d'habitude.
Et il y a Pete Woods aussi au dessin, puisqu'il assume la fin, parce que c'est coupé en deux en fait.
Oui c'est vrai. Oui c'est vrai. J'avais oublié.
Donc en fait on a les gardiens, on a deux histoires. D'un côté, les gardiens qui se transforment vraiment en gros connards de gros enfoirés, quand même.
Ça y est, ah oui, ça quand même, tout ça. Tout ça. Ligne, hein. C'est-à-dire que deux minutes, ça y est, on a déjà le tag explicite, en fait.
Voilà.
Donc, ils nous présentent enfin ce fameux premier lanterne qu'on nous annonce depuis, quasiment depuis 2 ans, en fait, hein.
Ouais.
Donc, ils l'avaient enfermé dans une prison très spéciale, gardée par des gens très spéciaux.
Ah bah, c'est surtout que ça y est, enfin, ce qui est génial, c'est qu'on sait où est passée la race des gardiens.
Mais il y avait le grand Schtroumpf, au fait.
Oui, oui. Mais en fait, moi, ça m'a surtout fait penser au Seigneur des Anneaux. Là, on sent quand même l'influence de Tolkien. Quand tu vois la prison, comment elle est designée, la race, qui garde le lanterne, ça y fait beaucoup penser.
Ouais.
Ouais, effectivement, j'avais pas vu.
L'autre histoire donc qu'on suit, c'est la suite du combat entre Black End et Hal Jordan et Sinestro. Donc ça commence très bien pour Hal Jordan puisqu'il se réveille dans une tombe.
Ouais. D'ailleurs, on peut préciser que ça a beau être un annual, c'est quand même la suite directe du numéro 12.
Ah oui, clairement.
C'est pas du tout une histoire à part. C'est comme la plupart des annuals qu'on aura justement cette semaine.
Pas tous, parce que Flash est clairement la suite du Flash 12 de la semaine dernière aussi. Hein.
Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que la plupart, ils sont quand même pas des histoires indépendantes. C'est plutôt
En fait, ils servent à quelque chose pour une fois les annuals.
Ah, c'est moitié-moitié, je dirais moi. Bon, on en reparlera tout à l'heure parce qu'on a encore d'autres annuals à chroniquer. Hein. On continue donc avec, comme tu disais Sam, hein, cet affrontement entre Black End et Sinestro, ainsi que Hal Jordan, qui ne va pas forcément tourner en leur faveur. Bon, en même temps, on s'en doutait tous, étant donné que ça fait déjà des mois qu'on est teasé avec la venue d'un nouveau Green Lantern.
Ouais. Quoi qu'ils aimaient du cœur hein, quand même à essayer de savater Black End.
Oui, mais bon.
Voilà, il lui arrache l'œil, il essaye de le décapiter. Enfin,
il va bénéficier d'un Deus Ex Machina qu'on ne va pas révéler. Et qui met en rogne hein, de toute façon. Enfin moi perso, je bouillis en disant.
Disons que les deux intrigues se rejoignent. On va pas dire comment ni pourquoi.
Bon, moi, c'est simple à deviner. Hein. Mais ouais. Par contre, ce que je trouve un peu mal foutu depuis quelques temps, c'est qu'en fait, les gardiens depuis le début, ils ont pas changé. Ils pensent toujours faire dans l'intérêt du monde. Enfin, tu vois ce que je veux dire.
Ah si, clairement, ils ont changé parce que ils se seraient toujours refusés avant à lobotomiser un des leurs pour.
Ouais, enfin ce que je veux dire c'est que
le dépouvoir d'émotion quoi. Enfin c'est quand même une méthode un petit peu d'enfoiré.
Oui
mais le but c'est qu'il y ait la paix dans l'univers, leur but quand même.
Oui,
ça n'a pas changé, ça a toujours été depuis les premiers, depuis la création des Manhunter.
Voilà, c'est juste au bout de leur logique là, vraiment c'est le bout du bout.
Tout en pensant faire le bien, ils sont quand même représentés maintenant avec des têtes de gros enculés quoi, comme dirait ça.
C'est des fascistes qui
veulent absolument des fascistes totalitaires.
Mais visuellement, tu vois, ils ont changé. C'est ça que je veux dire. C'est un petit peu manichéen parce que finalement, ils auraient pas dû changer de tête.
Je sais pas, moi je les trouve assez identiques physiquement.
Avant, ils étaient bien plus sympas même dans leur design. Ils avaient pas des têtes menaçantes. Maintenant, ils ont
les visages. Ouais.
Si depuis le début, depuis Green Lantern Rebirth, franchement.
Les visages sont beaucoup plus sévères. Hein. Tu les vois beaucoup plus souvent faire la gueule que tu les vois sourire. Hein.
Mais pas à ce point-là quand même. Quoi. Là, tu sens que vraiment ils sont partis du côté obscur. Quoi. C'est un peu, ça me fait un peu sourire à chaque fois parce que.
Finalement... Bah disons que dès la première page, c'est. Le problème, c'est pas l'émotion, c'est pas la volonté, c'est le libre arbitre.
Déjà, ça commence
comme ça.
Ça commence très mal.
Qu'en
as-tu pensé, toi, Corwin? Parce que toi, c'était une des seules séries que tu suivais en VO de façon régulière.
Bah, tout à fait. Moi, j'ai accroché dès le début. J'étais content d'avoir la fin du combat avec Black End. J'ai commencé Green Lantern au moment de Blackest Night, hein, en fait, quand ça sortait en VF. Et moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire cet annual. Comme vous disiez, les gardiens, ça y est, quoi, ils sont complètement fanatisés par leur désir de faire le bien. Donc forcément, ils basculent de l'autre côté. Et puis le team-up avec Hal et Sinistro marche toujours aussi bien, je trouve. Ce qui est marrant, c'est de voir que Hal fait de plus en plus confiance à Sinistro, même s'il essaye de montrer que on voit que ça, il y a un peu un lien de mentor à élève ou quelque chose comme ça qui s'est créé.
Bah, le problème, c'est qu'on en est à se demander qui est le mentor et qui est l'élève.
Oui, et
moi,
ça, c'est
un
très
truc
drôle,
qui avec moi, depuis un an, ça passe pas. Hein. Franchement, ce combo, j'ai beaucoup de mal.
Hein. Je trouve ça pas mal aussi, c'est que les relations ont tendance à plus ou moins, comme tu disais, s'inverser, surtout depuis qu'ils sont passés sur Nock. Et c'est pas mal. Moi, je trouve ça vraiment intéressant.
Tu allais dire, Denis?
Ouais, dans la représentation graphique, justement, pareil avec Sinestro, c'est-à-dire que dans Rebirth, quand Sinestro revient, il a vraiment, vraiment une tête de gros Adolf Hitler. Et là, maintenant, il est quand même graphiquement bien plus acceptable.
Il a quand même toujours eu une tête.
Ouais, mais je t'assure qu'il est bien plus acceptable. Quand tu regardes
Ouais.
Et donc, c'est pareil, quoi. Tu sens que ça influe, en fait, le fait qu'il soit, entre guillemets, gentil, maintenant, ça influe sur les dessins, quoi, et ça sur sa représentation.
Non, pas sur les dessins, mais ça influe sur ton faciès en général. Si tu es gentil, tu es beau, tu es souriant, magnifique. Oh, oui, si tu es méchant, t'es pas beau. C'est ce qu'on dit aux enfants. Tu seras un méchant pas beau. Et ben voilà, la preuve. La preuve par l'image.
Et ben voilà, c'est comme ça dans les comics. Ça me fait toujours sourire un peu.
Oui, c'est vrai. Kinghead.
Bah moi en fait toute la partie dessinée par Ethan Van Sciver ça m'a vraiment beaucoup plu. J'étais un peu plus déçu par la partie dessinée par Pete Woods. Déjà artistiquement ça me plaisait moins et j'ai été aussi un peu déçu par le design en fait de cette nouvelle sœur d'Army en fait que je trouve pas très
idem.
Intéressant. Donc ça m'a un peu déçu. Après bon c'est vrai que on voit que la mythologie Green Lantern il tient bien ses ficelles, il a des idées derrière la tête.
Moi je dirais que là la mythologie elle prend quand même un grand coup de pied dans les couilles. Hein.
Ouais mais je veux dire il nous révèle énormément de choses quoi c'est ça. Ouais,
je veux dire là il nous bouscule tout ce que vous croyez connaître finalement.
Ouais et
c'est pour ça que je dis que c'est vraiment un grand coup de pied dans les couilles parce que là c'est même pas une claque c'est même pas non.
Ouais c'est ça ouais, donc c'est le côté positif quoi. Ouais c'est ça on apprend plein de choses et donc vraiment ça m'a passionné et puis voilà enfin c'est un gros bail c'est indispensable quand on lit Green Lantern. Juste une petite déception voilà sur le chara-design de cette nouvelle armée. Et puis bah sur leur mode de fonctionnement aussi parce que du coup c'est pas très imaginatif en fait. Mais
bon. Clairement on pourra quand même dire qu'à la fin de celui-ci les choses vont changer. Ça c'est
simple. Ça c'est clair.
Là on pourra pas revenir au statu quo ancien et c'est aussi préférable parce que les gardiens ambigus voire gros enculés ça fait quand même 4-5 ans hein, qu'on les a comme ça très très limite. Si on pouvait s'en débarrasser une bonne
Surtout depuis New 52, ils sont quand même. C'est dommage parce que tu vois, toi qui ne lis pas New Guardians, Guardians, on les voyait vachement aussi changer, de façon beaucoup plus marquée déjà que dans Green Lantern. Parce que dans Green Lantern, finalement, on les voyait assez peu. Ils avaient vraiment une partie intégrante dans l'histoire dans New Guardians. Et déjà, enfin, on sentait que l'univers était cohérent puisque on voyait vraiment ces différentes facettes des gardiens toujours du côté un peu. Je vais t'arrêter tous les corps et je vais changer ça, quoi.
Et ils ont un gros côté intrigant dans New Guardian, je trouve, et ça, c'est pas mal aussi.
Ah, oh, mais c'est quoi ces gens qui aiment New Guardian? Oh.
Ah, bah oui.
Mais non, mais c'est toi qui a des Gucci hot, c'est tout.
Non, c'est bien, les Gucci trucs avec plein de couleurs.
J'ai raison et le monde a tort, c'est comme ça.
En fait, Sam, je crois savoir, tu es daltonien et tu ne repères pas les différentes couleurs des corps, c'est pour ça que tu n'aimes pas. Ça y est! J'ai l'explication. Donc on est d'accord, un bail pour tout le monde.
Oui. Bah oui, c'est un incontournable là.
Hein. Benny.
Oui, je suis da Green Lantern Corps.
Oh, pff, oh, oh, cette vanne. Bon, on va vite changer d'univers du coup, hein. Là-dessus, on peut pas rester. C'est Superman Annual, et c'est toi, Kinghead, qui t'en charge.
Et oui, un nouvel annual, donc je m'en suis chargé. On a Scott Lobdell au scénario, donc qui arrive sur le titre, et qui est toujours aidé quand même par Fabian Nicieza. On a Pascal Alix au dessin, également une superbe couverture de Kenneth Rocafort, qui va après reprendre le titre Superman à partir du numéro suivant. Et dans cette histoire, bah, c'est un peu comme une fin de saison. En fait, il nous lance pas mal de pistes sur ce qui va se passer pour Superman l'année prochaine, et en particulier, il va y avoir un gros crossover qui s'annonce avec l'univers de Wildstorm, et en particulier le retour de Hellspont, et puis des personnages comme Grifter et justement aussi Hawkman qui seraient impliqués dans le titre Superman. Donc c'était vraiment, j'ai bien aimé parce que déjà graphiquement le style de Pascal Alix, moi ça m'a beaucoup plu. C'est très détaillé.
Je connais pas du tout ce monsieur en fait.
Et bien
ou cette dame d'ailleurs, je ne sais pas.
Non c'est un monsieur et
Pascal c'est unisexe hein.
Oui mais il y a pas deux. Ah. Ah oui. Et enfin bon, je sais pas, je pense que c'est un monsieur et en fait j'adore son design. On a tout le background en fait, l'histoire de Hellspont en fait sur ses origines dans les New 52. Donc ça c'est assez intéressant et ils se sont fait plaisir, ils ont vraiment mis pas mal de clins d'œil et d'apparitions d'autres personnages DC pour vraiment mettre en avant ce côté futur gros event, mini event. Je pense qu'il va avoir lieu entre justement octobre et décembre. Donc voilà, bah c'est une bonne lecture, c'est beaucoup plus péchu que ce qu'on a lu jusqu'à présent dans Superman. Bon après, c'est vrai que moi j'ai lu Grifter, j'ai lu aussi d'autres choses justement qui permettent de voir un peu ce qui se passe avec les Demonites et compagnie.
Donc, qu'est-ce que tu es courageux quand même.
Voilà, mais donc du coup c'est vrai que ce côté-là m'intéresse. Donc pour moi c'est un bail, mais...
Un bail carrément.
Ouais, carrément un bail parce que j'ai trouvé ça sympa et puis voilà, Pascal Alix, les dessins, ça m'a vraiment beaucoup plu.
Ok, très bien. On va enchaîner, bien sûr, sur un autre annual, hein, normal, c'est la semaine de l'annual chez DC, avec l'annual de Flash, Flash qui nous avait laissé sur un super cliffhanger la semaine dernière, au moins on avait qu'une semaine à attendre.
Ouais.
Hein, on se faisait ronger les ongles, hein, Sam.
J'irai pas jusque là.
On s'est même rongé les ongles chacun l'un de l'autre. Et ça c'est beau. les phrases bateau.
Heureusement qu'il y a du montage hein sur le.
Ah non mais je laisse tellement c'est mauvais, je préfère le laisser. C'est encore plus drôle tellement c'est nul. Alors cet épisode moi m'a déçu de par ses dessinateurs puisque donc c'est toujours Francis Manapul et Brian Buccellato qui se chargent de l'histoire, mais là on a Francis Manapul qui va ne faire que les roughs quoi, les breakdowns, le truc basique.
La mise en page même pas, je dirais la mise en page.
Et on a plusieurs dessinateurs. C'est divisé en plusieurs chapitres. Alors, chaque dessinateur a pris en charge un chapitre. Et on en a beaucoup quand même. On a Marcus Tau, Scott Collins, Eugenie Znivis, Marcio Takara et Wes Craig. Donc, ça fait beaucoup. Et j'étais un petit peu déçu. Du coup, Brian Buccellato ne fait pas toutes les couleurs de plus. Donc, on a un annual qui est visuellement quand même relativement différent. Heureusement.
Et on voit que le costume de Flash, par exemple, ne marche pas avec tous les dessinateurs. Hein.
Exactement. Heureusement, vu que ça se passe à différentes périodes de temps, ça reste un peu plus acceptable, mais c'est vrai que ça gêne un petit peu quand on est habitué à certains standards de qualité.
Je sais pas si ça se passe à différentes périodes de temps. J'ai l'impression que ça se passe tout en même temps, en fait.
Ah, non, puisqu'on a plein de trucs. On a des flashbacks,
oui,
on a des...
Oui,
voilà. Donc, ce qui fait que vu que c'est divers moments du temps, même si c'est quand c'est dans le présent, il y a des scènes qui vont se passer 10 minutes avant, qui vont se passer 5 minutes après, etc. Bon, encore, l'unité graphique peut se permettre d'être légèrement rompue, puisqu'on a vraiment des choses qui nous le situent. Mais bon. On est habitué à un certain niveau de qualité chez Flash, quoi. Et on l'a pas forcément là. C'est pas mauvais, c'est juste que c'est pas la même qualité que d'habitude. Enfin, en tout cas, ça, c'est ma vision des choses.
Bah, disons que moi, ça m'a rassuré quand j'ai vu Diogène Neves, qui est très très bon, et qui fait des pages magnifiques encore une fois.
Ah, surtout qu'il s'est attardé sur l'histoire des Rogues, et notamment l'histoire de la sœur de Captain Cold.
Voilà.
Et qui est très qui style, est vaporeuse, et voilà, justement, ça correspond, quoi. C'est clair. C'est super.
Mais c'est, voilà, mais sinon, moi, ça m'a pas déçu particulièrement. La fin, je m'attendais, parce que voilà, si on a vu les sollicitations qui arrivaient ensuite, on savait comment ça allait finir.
Ah, ça c'est le problème. Bon, on va quand même parler de l'histoire. Bah, du coup, c'est l'affrontement entre Flash et les Rogues. Mais Flash, on l'avait vu à la fin du 12, va peut-être se trouver un allié en la personne de Captain Cold.
Oui, pas longtemps. Hein.
Bah voilà, est-ce que
on Captain... spoil pas, mais pas longtemps.
Un petit peu quand même. Enfin bon.
Ça reste ambigu, on va dire. Ça reste ambigu, et ce qui est bien, c'est que les scénaristes ont bien compris l'esprit des rogues. Ça, ça m'a plu. C'est que ça n'ait pas changé avec le relaunch. On garde l'idée que Geoff Johns avait introduit sur le code d'honneur des rogues, donc c'est pas mal du tout.
Ils se mettent une porte de sortie aussi par rapport à Barry Allen et le fait qu'il se fasse passer pour mort. Mmh. Dans cet annual, donc c'est un annual à ne pas rater si on veut continuer de suivre Flash. Et enfin, on a aussi l'explication de pourquoi les rogues ont des pouvoirs.
Ouais. Et on comprend que c'est lié peut-être, à un certain scientifique.
Ah bah, c'est pas peut-être.
C'est carrément, oui. J'adore l'explication de pourquoi, c'est « Oh, je veux juste voir ce qui va se passer ».
Mais oui, mais finalement, c'est la même motivation qu'il avait donnée à Flash dans l'épisode 12.
Oui, pour flinguer sa réputation.
Alors, la première fois, tu te dis, est-ce que c'est juste pour se foutre de sa gueule, ou est-ce que c'est vraiment pour ça, finalement, avec cette deuxième explication pareille, est-ce que ce serait pas la même chose? Est-ce que ce personnage serait pas complètement cinglé, ce qui le rendrait encore plus dangereux?
Est-ce qu'il ne recherche pas, en fait, que le chaos, sans se soucier des conséquences, et juste pour voir?
Ouais.
C'est marrant.
Finalement, moi j'ai vraiment apprécié cet épisode. Scénaristiquement, ça tient bien la route.
Ouais.
Pourtant, c'est vrai qu'au départ, quand on nous a dit que ce serait Manapul et Buccellato sur la série.
Ouais, depuis un an, ça tient le.
Ouais. Alors, au début, il y a eu quand même quelques épisodes assez faibles. Hein. On doit avouer que vers le 4-5, il y a eu un petit creux.
Oui,
quand
ils se concentraient uniquement sur le vilain qu'ils avaient introduit dans le premier arc. Il y a tout un épisode là-dessus, tu te dis, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre?
Ils donnaient l'impression de se chercher, et puis finalement, là, ils se sont vraiment bien trouvés, et ça fonctionne, et j'espère qu'on va avoir un Flash aussi bon.
Ouais. C'est frais, on n'a pas l'impression de relire encore une fois la même histoire, encore et encore, donc, non, c'est très agréable à lire.
Donc, encore une fois, un gros bail pour cette semaine. Ça va vous coûter très très cher cette semaine. Très très cher. Les épisodes sont à 4,99, vous allez vraiment manger. Eh bien, on va continuer avec toi, Benny, puisque tu vas nous parler d'un autre annual, encore une fois, hein, Detective Comics.
Alors, Detective Comics, scénarisé par Tony Daniel, uniquement scénarisé par Tony Daniel, puisqu'il ne dessine pas cette fois-ci. On retrouve, par contre, l'excellent Romano Molinari, notre ami qui prend son train à l'heure et qui...
Mais qui a des inondations. Pas de chance.
Oui, enfin voilà, c'est
attention,
une malédiction.
On n'a pas dit qu'il avait des fuites. Ce n'est pas la même chose.
Non, mais sans Batman, référence au LCF 2010.
Son Batman doit être magnifique parce qu'il a vraiment un très joli coup de crayon, ce monsieur.
Oui, ouais, non, enfin voilà, donc c'est cool de le voir sur Batman. Il m'avait fait un Joker, donc maintenant le voir vraiment bosser sur un annual chez DC, c'est quand même la classe. Bah, j'espère qu'il va continuer, quoi, parce que c'est vraiment vraiment pas mal graphiquement. Moi, j'aime beaucoup. Par contre, on sent autant que Tony Daniel aime l'univers de Batman, mais autant il est plus dessinateur que scénariste, quoi.
Là, ouais, ça, j'aurais pu te le dire.
Oh, la mauvaise foi de Sam.
Non, mais c'est vrai que c'est le scénario est sympa sans plus, quoi. C'est assez faible. Alors, ce qui est sympa avec Tony Daniel, c'est qu'il aime vraiment l'univers de Batman et Gotham City, donc il met plein de personnages propres à cet univers. On retrouve par exemple Tweedledum et Tweedledee. Je sais pas si ça te dit quelque chose.
Ouais, bien sûr.
Ça, c'est pas des nouveaux.
Voilà. Mais c'est justement, c'est vraiment des personnages super classiques. Mmh. Donc il y en a plusieurs comme ça, mais. Bon, c'est au fait Black Mask s'est échappé d'Arkham. Alors Black Mask, c'est à nouveau Roman Sionis. Alors que souvenez-vous, avant le relaunch, il s'agissait au fait du Docteur Arkham, qui était devenu Black Mask. Alors là, il y a une espèce d'ambiguïté, on ne sait pas trop si Arkham va reprendre le masque de Black Mask. Et au fait, apparemment non. Ça a changé avec le relaunch. Donc
ouais,
voilà.
Ça, c'est des choses qu'on pouvait s'y attendre, forcément qu'il y ait des choses qui disparaissent par rapport aux dernières années de.
Ouais,
univers classique, quoi.
Un peu dommage. Donc là, la question que je me posais à la lecture de cet annual, c'est est-ce qu'il allait remettre Arkham sous les traits de Black Mask? Bah non. Par contre, c'est une petite enquête, voilà, sur où est Black Mask, qu'est-ce qu'il va faire, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre derrière qui essaye de le manipuler, enfin voilà. Bon, sans plus, quoi. C'est graphiquement
c'est
sympa.
Génial.
Voilà, mais graphiquement c'est sympa, mais bon. Ah oui, j'ai oublié juste de préciser un truc. Romano Molinari ne fait qu'une partie au fait du comics au dessin. C'est Pérez Pérez qui termine, qui fait quand même pratiquement en fait la moitié, quoi. En tout cas une bonne partie.
D'accord. Bon, bonne précision. Donc un check-it ou un bail?
Oh non, un check-it. Hein, franchement, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un bail.
Un check it, ok. On va faire une petite pause d'essai, on va passer du côté de chez Marvel maintenant avec une bonne blague cette semaine que je n'ai malheureusement pas eu le temps de lire et j'en suis mais honteusement désolé.
Dont le titre nous fait uniquement marrer.
C'est donc Corwin et Kinette qui vont s'en charger, c'est le AVX versus numéro 5.
Oui.
vas-y Corwin.
Ça marche comme blague, hein, parce que c'est uniquement le titre, ça nous fait tous marrer.
Pour ta première de Weekly, on va te laisser faire le versus parce que je pense que c'est magnifique.
Les AVX, je m'y suis mis, je suis AVX versus, je dois pouvoir suivre. Effectivement, c'est pas dur. Hein. Donc on a deux parties comme à chaque fois. La première, c'est Hawkeye contre Angel, avec Matt Fraction au scénario et Lenny Francis Yu au dessin.
Donc attends, deux secondes. Oui. Je te fais Sam. Ouais, non, c'est nul.
Ah oui.
Non, mais je peux plus en passer une, là. C'est pas fait.
Et la deuxième partie, c'est Black Panther versus Storm par Jason Aaron et Tom Raney.
Aura-t-on enfin une explication?
Non, tu peux t'asseoir dessus, déjà. Alors, Hawkeye versus Angel, c'est nul. Black Panther versus Storm, c'est nul. Je sais pas comment...
King Ed, écoute, vas-y. Alors,
déjà, une petite précision, on est au numéro 5, et en fait, c'est des combats qui se passent tous, je crois, dans les 3 ou 4 premières issues d'AVX. Donc ça se passe il y a très très longtemps.
Bah, sauf le Storm Black Panther, enfin normalement...
Alors, non, pas du tout. Alors, le Storm Black Panther, il se passe au tout début d'AVX, c'est quand il essaie de chercher Hope, qui est au Wakanda, et on a un combat complètement débile entre les deux personnages, sachant après comment réagit Storm dans la série principale. C'est que ça n'a vraiment rien à voir,
C'est complètement
con. C'est complètement con. Et on a l'impression que c'est deux personnages complètement différents, la façon dont ils réagissent. Donc bon, bah voilà, c'est
nul. Il est fort, Jason Aaron. Bravo.
C'est très nul. Et pour la partie de Hawkeye versus Angel, déjà le Angel, il a rien à voir avec l'Angel qu'on voit dans les autres séries X-Men en ce moment. On dirait presque Archangel, enfin plutôt sa version plutôt méchante et intelligente que sa version un peu débile qu'il y a en ce moment dans X-Men.
Naïve, mais, c'est bien naïve.
Ouais, mais c'est surtout, en fait, on voit Psylocke aussi, ça qui a rien à voir avec dans X-Force, enfin bon, c'est bizarre. Et puis, le combat est tout pourri, c'est avant que Hawkeye se fasse griller par Emma Frost.
Donc, oui, parce que je me demandais justement,
C'est juste joli, enfin, moi j'aime bien les dessins de Neil Francis Yu, donc cette partie-là m'a...
Moi aussi, là-dessus, ça va.
Ça sert vraiment à rien, et franchement, c'est un pass, quoi. Enfin, c'est clairement un pass.
C'est clair. Psylocke, elle sert à rien. On a une intervention de Emma Frost en Barbie Poufias Phoenix 5 à la fin.
Oh là là.
Qui fait, on va la voir.
Non, les pénis 5, hein, c'est qui,
voilà. Donc, en plus, moi, je sais pas toi, mais il y a une scène qui m'a fait marrer, c'est quand, parce que là, il y a plus que ça, de toute façon, quand on y a AVX, se marie, il y a plus que ça. C'est quand, Hawkeye prend ses flèches dans ses mains et qui la sert, Angel.
Bah oui, quand on peut pas avoir Wolverine dans un comics.
Voilà.
On fait semblant. Non, c'était vraiment pas terrible du tout.
Et puis, alors la partie sur Storm et Black Panther, j'ai trouvé ça déjà gnangnan. C'est cucu la praline au possible. Et en plus, c'est moche. Ils ont des têtes déformées. Enfin, donc moi, c'est un gros pass aussi.
Ok, très bien. Bon, on va continuer dans une partie quand même X-Men, hein, avec la sortie du Extreme X-Men numéro 2.
Légèrement mieux. Alors, scénarisé par Greg Pak et dessiné par Steven Segovia. Donc on a différents personnages, donc Dazzler, le mini Nightcrawler, un pseudo Wolverine, Emma Frost et Charles Xavier dont la tête est dans un bocal, voilà, qui arrive dans une dimension parallèle où les X-Men sont des dieux.
Il n'y a pas que les X-Men hein, d'ailleurs, il y a aussi Thor qui traîne.
Oui, ça, mais lui il reste un dieu, ça change pas.
Donc, c'était assez ressemblant à un épisode de X-Files hein, d'ailleurs.
Oui.
Mais de toute façon, le concept de la série ressemble à Exile.
Ce qui aurait été bien, parce que dans Exile, le premier arc était en deux parties, était très bien. Là, c'est pas en deux parties, et ouais, c'est légèrement moins bien.
Moi, on voit une série qui fera pas long feu, alors.
Ah, moi, j'ai bien aimé, je retrouve un petit peu l'ambiance d'Exile, et c'est pas mal. Il y a déjà des petits liens entre les personnages, des petites tensions, par exemple, entre Dazzler et Emeline Frost, enfin, ils fonctionnent pas de la même manière, moi, je trouve ça intéressant.
Elle fait des beaux feux d'artifice, Dazzler.
Ouais.
Ça non, va.
Le seul problème de cette série, c'est que si vous avez déjà lu Exile, y a rien de nouveau sous le soleil. Quoi.
Non, y a rien de nouveau, mais moi, c'est une série que j'aimais bien, donc quelque part, je m'y retrouve. Quoi.
Ouais, puis bon, il faut pas sous-estimer Greg Pak, il est quand même capable de nous sortir de très bons scénarios. Il faut juste attendre qu'il ait le temps de mettre les choses en place et qu'on lui laisse le temps.
Bah, étant donné que la série va s'arrêter au bout de 12 épisodes, du coup, ça sera difficile. Hein.
Oh, t'es méchant, là.
Sachant qu'au dessin, quand même, les dernières pages sont légèrement bâclées.
Ouais, c'est vrai que c'est dommage, alors que le reste de...
Alors que le début de l'épisode est très beau. Moi, j'ai bien aimé le début, parce que ça tient bien. Par contre, la fin, là, on sent que le mec était à 2 heures du rendu et qu'il fallait rendre, quoi.
Mais ouais, mais ils ont des sacrées gueules en plus les designs des dieux justement dans cette dimension-là. Je trouve ça bien cherché, bien fouillé. Ouais, puis il y a une petite blague sur le cosplay à un moment. Ça m'a bien fait rire aussi.
Voilà. Moi, je dirais un check-it, j'en sens plus.
Moi, c'est un bail pour moi.
Ok. On continue toujours dans la partie X-Men avec Gambit numéro 2.
Oui, donc là, c'est James Samus au scénario et Clayman au dessin. Alors là, on revient en fait au style, je dirais, habituel de Clayman. Dans le premier épisode, on avait un truc avec les couleurs qui était pas terrible, je trouvais.
Ah, moi, j'avais beaucoup aimé les couleurs du premier.
Moi, pas trop. Je trouvais que ça se mariait pas vraiment bien avec le style de Clayman. Là, on revient vraiment à ce qu'il maîtrise, en fait. Donc ça va mieux. Donc, Gambit qui a un petit problème de parasite, on va dire.
Donc c'est bien Starro?
Non, ouais, c'est ce qu'on s'était dit la dernière fois.
Ouais.
Il est aussi collant que Starro, hein.
Ouais, c'était énorme, quoi. Je veux dire, attends, attaqué par une étoile de mer, tu penses forcément à Starro.
Voilà. Donc, en fait, il essaye de se faire retirer le truc au début. Ça marche pas très bien. Donc, après, ensuite, il recherche des informations sur le, d'où ça vient, ce que c'est que ce truc et comment on peut le retirer. Parce que, d'habitude, c'est Mora qui rentre dans les autres et pas l'inverse.
Ça peut être très mal compris, ça.
Non, il fallait le comprendre comme ça.
Ah, d'accord.
Ben, Gambit, hein.
Oui, comme son nom l'indique.
Il a pas la dit.
J'ai très honte de ma vanne.
On l'avait jamais fait, ça, hein, franchement.
Non, jamais.
Durant toutes ces années de lecture, j'ai jamais pensé à ça, et c'est vrai, maintenant que tu le dis, c'est incroyable, quoi.
Jamais. C'était honte.
Moi j'ai lu aussi et moi j'ai bien aimé cet épisode.
Ah. Eh ben on s'en fout, tu vois.
Voilà. Eh ben tant pis pour toi. Je t'en prie. Voilà.
Eh ben bisque rage, hein.
Non, ce qui me plaît, c'est qu'on sort un peu du côté X-Men super-héros et que c'est vraiment une série de braquages. Et, donc ça m'accroche. Et puis on a Gambit tout seul et c'est un de mes persos préférés. Donc je suis content de le voir sans avoir à s'encombrer de Wolverine que j'aime bien ou Cyclope que je déteste.
Je te l'avais déjà dit, Corwin, mais je trouve toujours que tu as bon goût.
Merci.
Au niveau personnage.
Je sais pas pourquoi.
Non,
tu
mais
dis
c'est
ça.
Bien parce qu'en fait on retrouve notre bon vieux Gambit avec sa caractérisation et pas le truc mielleux qu'on avait ces dernières années.
Oui, et puis voilà, et puis il drague des meufs, il vole des trucs.
Voilà, c'est le bon vieux Gambit qu'on a connu dans les années 90.
Ouais, le mec borderline.
Voilà,
classique, quoi.
Avec des secrets, avec des trucs, enfin c'est voilà.
Pas, charmeur mais roublard, enfin bon, voilà, c'est
exactement.
C'est ce qu'on aime, quoi.
Pas le type Choukou qu'on a eu ces dernières années.
Pardon, excuse-moi Sam. Un bail pour toi, Corwin.
J'hésite entre le bail et le check-it, parce qu'il faut...
Je dirais un bon check-it, c'est un bon check-it.
Ouais. Moi, je dirais comme toi, en fait. Il faut vraiment aimer le personnage pour aller voir voir ça, ou alors aimer les séries pas de super-héros, parce que il n'utilise quasiment pas ses pouvoirs. Mais enfin, moi, je continuerai à l'acheter, mais pour les autres gens, un bon check-it.
Très bien. On continue avec Uncanny X-Force numéro 30.
Oui, qui sera mon coup de cœur de la semaine. Donc en fait, sur les conseils de à peu près tout le monde, j'essayais de rattraper mon retard sur la série, parce que j'avais laissé tomber avec Greg Tokini.
Ah, qu'est-ce que tu es fort, Kinghead, tu as réussi à remettre Sam.
Mais je suis content, parce que c'est vrai que la série est très bonne.
Ouais. Et bah disons que Greg Tokini m'a fait très mal aux yeux quand même. Hein. Là, ouais.
Pourtant, son arc, le scénario était intéressant, j'avais trouvé.
Il y a quelques longueurs ici ou là, mais oui, ça fonctionne.
C'était le truc avec Omega non. Red.
Non, avec les Captain Britain.
Ouais.
D'accord, bon, j'ai pas lu ça. Alors, d'accord.
Donc, toujours Rick Remender au scénario.
Ouais. Voilà.
Rick Remender au scénario et Dave Williams au dessin. Donc, un type que je connais pas, donc qui s'en sort bien en fait sur l'épisode.
Sauf une petite chose, je veux dire leur Apocalypse, il a pris 5 ans en une issue. On dirait qu'il est beaucoup plus vieux que
tous les autres comics. Début de la vingtaine, entre 18 et 20 ans.
Alors qu'il était beaucoup plus jeune avant. Mais
ce que vous ne savez pas, c'est qu'il a été faire un tour dans une dimension alternative avec les Extreme X-Men nouvelle version et qu'il est revenu 5 ans plus tard.
Peut-être. Alors en fait,
que ça ce sera expliqué bientôt.
La Brotherhood s'est reformée autour d'Aken. Donc il y a quelques
alias gros enculés. Voilà.
Non, ça veut dire bâtard en japonais.
Si on leur échappait, toute l'équipe de X-Force est retrouvée dans le futur, où on a vu que leur idéologie la fin justifie les moyens et on tue de manière préventive avait été élevée en loi, quasiment. Donc en fait, ils tuaient tous ceux qui pouvaient éventuellement devenir une menace. Et, bonjour le futur. Hein.
Moi, ça me rappelle un épisode des Teen Titans, c'est ça, par Jeff Jones. Ouais,
mais le truc était vraiment très très bon, surtout la conclusion. Et en fait, là, on revient dans le passé, mais on retrouve pas l'équipe. On suit la Brotherhood qui a enlevé Genesis, donc Apocalypse en fait, Apocalypse jeune, et qui essaye de lui révéler en fait qui il est. Donc ça tourne beaucoup autour des manipulations mentales du Shadow King, qui essaye de le pousser à bout, mais surtout des provocations en fait de Daken et de Sabretooth qui lui disent que si grosso modo il ne le tue pas, eux ils tueront des gens devant lui, y compris ses parents.
Donc c'est une façon en fait d'essayer de réenclencher Apocalypse, voilà. parce que justement il avait été élevé par Fantomex pour être une arme du bien.
Et, F comme Fantomex.
Voilà. Et en fait ils essaient de le provoquer et en même temps en utilisant l'idéologie de Wolverine. Ouais. Qui est on peut tuer ça tuer les méchants quoi.
Non, c'est très bien écrit. J'ai bien aimé le petit coup de le petit rapport avec Superman sur son enfance et parce que c'est pareil en fait Fantomex quand il a élevé le jeune Genesis, il lui a fait croire qu'il avait une famille dans le Kansas, dans une petite maison comme ça.
En fait, il l'a élevé dans une réalité virtuelle où ses parents sont en fait des prototypes de ces Proma et Paken quoi.
On avait déjà vu ça de toute façon dans les précédents épisodes.
Ouais, c'est ça, mais là on le retrouve et c'est pas mal, je trouve. J'aime bien.
Voilà, donc c'est beaucoup porté sur la psychologie, il y a pas mal d'action aussi, c'est vraiment très très bon. Le suspense est terrible. On se dit est-ce qu'il va basculer, est-ce qu'il va pas basculer, donc voilà.
Pour un mec qui a 2 semaines disait ouais ça me fait chier. Quand même. Ouais.
Comme d'habitude. Hein.
Il en fait son coup de cœur.
En rattrapant mon retard. Oui.
Parce que je me suis fait son coup de cœur.
Tapé 8 à 9 épisodes d'affilée. Hein.
Et moi je dis King Ed, bravo pour le turnover.
Ouais. Non mais ça, je suis d'accord et c'est pour moi c'est un bail ce numéro sans problème.
Ok, alors très vite on va passer chez Wolverine and the X-Men.
Jason Aaron au scénario, Jorge Molina au dessin, qui est bien meilleur que sur FF, où là aussi il m'avait fait pleurer du sang. Donc en fait, je me suis dit c'est du AVX, je vais éviter. Et en fait, c'est du AVX sans vraiment d'AVX. Parce qu'en fait, c'est les préparatifs de la baston, où tous les personnages font un peu le point sur la situation. Donc c'est très drôle, tous les personnages sont très bien gérés, leurs histoires en cours. On a notamment en fait tous les personnages d'Utopia qui commencent à rejoindre l'Institut, puisque ils ont quelque peu défection, donc on les voit s'intégrer. C'est toujours très drôle, c'est toujours très bon. On a des petites évolutions ici ou là, donc c'est vraiment un bail.
Pour terminer la partie X-Men, passons chez les Ultimate X-Men.
Oui, avec le numéro 15, avec Brian Wood au scénario et Paco Medina au dessin. Donc toujours en rapport avec ce fameux crossover Divided We Fall. C'est mon coup de cœur de la semaine. Je crois que Sam ne sera pas d'accord avec moi, mais
non, c'est le bâche de la semaine plutôt.
j'ai bien aimé ce numéro parce que c'est le numéro où j'ai vraiment senti que Brian Wood avait vraiment pris à son compte cette histoire et je trouvais qu'il a été assez malin pour réintégrer des choses des précédents numéros d'X-Men et puis du crossover. J'aime bien aussi le nouveau groupe là de X-Men avec justement une Kitty Pryde qui devient un leader et puis le fils de Wolverine qui est donc Jimmy Hudson qui je trouve prend beaucoup de charisme avec ce numéro là, donc c'est un personnage qui au départ me laissait un peu froid et là je le trouve de plus en plus intéressant. Ça a répondu aussi à une des questions que je me posais depuis très longtemps dans Ultimate, de savoir où était un certain personnage. Donc, j'étais content d'avoir la révélation là-dessus. Donc, voilà. Après, moi, j'aime bien le style de Paco Medina. Je trouve que ça va bien à la série. Et j'attends avec impatience la suite pour voir ce qui se passe avec cette nouvelle équipe de X-Men et comment ils vont être formés justement par ce personnage qui vient faire son retour.
Ouais.
Voilà. Bon, pour moi, c'est un bail.
Moi, ce sera un pas, ça. Franchement. Voilà. Le premier épisode, je peux accepter que ce soit le point sur la situation, Kitty Pryde qui prend les choses en main et donc on accepte qu'il se passe pas grand chose. Le second épisode, déjà, j'ai beaucoup moins apprécié où, grosso modo, c'est l'X-Men dans une voiture jusqu'aux états du Sud. Merci, 22 pages de ça.
Ouais,
c'est super sympa.
C'est justement, c'est ça.
Trip.
Et troisième épisode, on continue avec il se passe rien et on va rejoindre le personnage qu'on attendait tous à la fin de l'épisode. Waouh, super, merci.
Ouais, mais les
trucs coûtent $3.
Les persos sont devenus, enfin, ils ont au niveau richesse de leur personnalité et tout, on en apprend.
Non mais on comprend que Brian Wood tient bien les personnages, d'accord, mais maintenant il faut qu'il se passe des choses. Ouais. Voilà, faut que l'histoire avance, donc
ça va plaiter après. Ça va
plus.
Bon, bah, tu l'as convaincu pour X-Force, tu vas pas le convaincre pour Ultimate.
Ah ouais, non, parce que Ultimate X-Men, je le suis depuis le début et ça, pour moi, c'est le plus mauvais épisode de la série. Hein.
Et voilà, Kinyad, un seul par semaine, un seul.
Voilà.
On va continuer avec un sacrifice de ta part, Corwin, puisque tu as lu le Avenging Spider-Man numéro 11, sachant le team-up, tu as quand même accepté de le lire.
Ouais, non, c'était dur. très dur. Alors au scénario, on a Zeb Wells et au dessin, on a Steve Dillon. Alors déjà, sur les dessins, j'accroche pas au style de Steve Dillon, puisque je trouve qu'il fait tout le temps les mêmes têtes. Je me souviens, quand ils bossaient sur Wolverine, ils avaient à peu de choses près les mêmes traits pour les mecs.
Mais ça a toujours été la même chose. Steve Dillon, c'est son grand défaut.
Ah ouais, mais moi, je trouve ça insupportable.
Et même les femmes ont des têtes de mecs.
Bah en fait ils ont tous la même tête. C'est la coupe de cheveux qui change.
C'est les fringues. Non, c'est les Playmobil.
Ouais, voilà, c'est un peu ça. Et alors l'histoire, normalement c'est des team-up, et là on a un team-up entre Peter, Parker et Tante May, où ils reviennent sur la mort d'Oncle Ben. Donc déjà c'est quelque chose qu'on a déjà vu 100 fois. Ça apporte strictement rien.
C'est l'anniversaire, hein, les 50 ans.
Ouais, non, mais ça essaye de faire plus ou moins dans le pathos, mais c'est juste chiant, en fait. Je me suis emmerdé.
Finalement, ça fait dans le pâté, quoi.
Et, ouais.
Oh, attention!
Donc, on a une page où ils sont dans le temps présent devant la tombe d'Oncle Ben à papoter sur lui, ce qu'il aurait voulu, ce qu'il aurait pas voulu, patati patata. Et une page de flashback, qui est un peu plus dans les tons noirs et blancs, et, sur, l'enterrement d'Oncle Ben, en fait, et de ce qui se passait après, et voilà, et c'est nul.
Ok, donc ce sera un pass.
C'est un pass, ah oui. Non, mais...
Clairement. Allez, on continue avec la sortie du FF numéro 21.
Oui, Jonathan Hickman au scénario, Nick Dragota au dessin. Donc en fait, c'est simple, c'est Hickman qui finit de liquider les histoires de Dan Abnett et Omni Ring. C'est aussi simple que ça.
Merci Jonathan Hickman, je te déteste plus du tout encore.
Voilà, donc là c'est une histoire qui me dérangeait pas trop, qu'il liquide, parce que c'était pas ma préférée. C'était l'histoire Ronan et Crystal, que j'avais jamais compris pourquoi ça tout d'un coup ça prenait un tournant romantique alors que ouais d'accord, Ronan quand même, hein,
quand même. Non, bah, c'est n'importe quoi, c'est franchement moi ça me déprime.
Voilà, c'est pour moi ça reste bon. C'est pas son meilleur épisode, soyons clairs, parce qu'il y a quand même des incohérences ici ou là. Mais voilà.
C'est un bon check-it. J'ai l'impression que Bendis et lui vont complètement détruire tout ce qu'a fait Dan Abnett et Andy Lanning.
Ah mais ça y est, c'est fait, hein, là ils ont fini. Hein.
J'ai l'impression que Hickman, c'est Bendis surtout.
Oh non, ça va encore, il a de la marge. Franchement.
Ok, donc un bail pour toi?
Non, plutôt un check-it.
Très bien. Captain Marvel numéro 3 est sorti cette semaine.
Ouais, putain de gros passe là. Donc Felicino Conis au dessin.
Ça c'est votre en matière quand même.
Dexter Soy au dessin. Là je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette daube? C'est-à-dire que au moins dans les épisodes 1 et 2, il y avait de l'humour, là il n'y en a pas. Et Carol Danvers, mais qu'est-ce que c'est que ces décisions à la con? Donc en fait, on reprend là où on en était à la fin de l'épisode précédent, c'est-à-dire elle se fait attaquer par des gros tanks volants dont le design est d'inspiration Kree. Elle est toujours accompagnée de son petit commando de femmes dans les années 40 là, donc en pleine guerre mondiale. D'accord, c'est très intéressant, mais on se fait quand même un peu chier.
Ok.
Donc c'est un pass.
Très bien. Allez, c'est tout pour la partie Marvel. On va revenir maintenant du côté de chez DC avec la sortie du Justice League numéro 12 qui était extrêmement attendu cette semaine puisqu'il mettait en scène cette fameuse couverture du gros roulage de pelle, hein, le gros French Kiss de Superman et Wonder Woman. Scénarisé bien sûr par Geoff Johns, au dessin Jim Lee, Ivan Reis et David Finch.
Et environ 9 encore.
Ouais, c'est juste n'importe quoi. Ouais. Bon bah c'est la presque fin de l'arc.
T'es sûr parce que là.
Ah c'est la fin de l'arc, on peut le dire.
Non, c'est la fin de l'arc, c'est la fin de l'arc. La fin de l'arc où il y avait pas d'histoire déjà à la base, donc.
Bah là il se passe rien quoi.
Bah voilà, c'est la Justice League contre le méchant et ils font leur tête.
Non wow. Mais concrètement on passe déjà quelques pages à résumer la situation. Pour ceux qui n'ont pas lu les précédents épisodes, enfin je sais pas.
Ça fait un peu Chevalier du Zodiac, quoi. Précédemment.
Ensuite, bah, ils arrivent à vaincre l'adversaire. Il n'y a pas de révélation particulière.
Non. Ah si, si, il y a quand même une grosse révélation. Il y a une grosse révélation qu'on le savait tous déjà depuis maintenant 2 semaines. C'est que, en fait, le fantôme qu'elle voyait de Steve Trevor, mais Steve Trevor n'est pas mort. Bah oui,
oui.
Puisqu'on avait vu sur les designs de Justice League of America qu'il était dans l'équipe, putain.
Hey. Bravo DC pour la gestion de l'histoire. Hein.
Oui, non, mais enfin, la pire gestion de l'histoire, c'est quand même justement ce twist qui aurait pu être intéressant s'il n'était pas en couverture.
Il n'a même pas été révélé il y a une semaine.
Bah oui, non mais c'est complètement con. C'était la seule surprise. Là, franchement, je me serais dit ah ouais, d'accord, il se passe quand même quelque chose. Et bah non.
Alors.
Non.
Moi, je tiens à dire quand même que Geoff Johns a fait un effort de cohérence éditoriale en nous faisant partir Green Lantern de l'équipe pour une raison qu'on va pas révéler puisque vous allez la comprendre dans l'histoire.
Bah, il faut dire.
C'est pas mal vu. Je trouve que c'est pas mal vu. Et il a ça le mérite de lier le fait que Green Lantern disparaisse dans sa propre série. Donc. Bon, au moins il a fait un effort de cohérence éditoriale.
Il reviendra peut-être dans sa propre série.
Oui, il a fait un effort de cohérence avec lui-même.
Oui, ben oui, mais au moins il y a déjà ça. Parce que bon, jusqu'à présent, la caractérisation dans Justice League et les problèmes éditoriaux, c'était quand même franchement très fréquent.
Et Jim Lee est très loin de son travail du premier arc. Hein.
Ah oui, mais là, je crois que le problème, c'est que j'ai l'impression que à certaines pages, il les a pas dessinées, c'est plutôt les encreurs qui les ont dessinées.
Moi, j'ai l'impression qu'il s'en fout surtout. Qui en a plus rien à péter, il a fait son beurre là-dessus et qu'il a autre chose à branler que dessiner du Justice League, il s'en branle quoi. Ou peut-être a-t-il compris que les histoires étaient pourries, il avait pas envie de se déchirer quoi.
Ça on pouvait le comprendre dès l'épisode 1.
Kinghead, tu n'as pas encore donné ton avis sur cet épisode.
Eh bien oui, parce que je vous vois tous très négatifs et c'est vrai que jusqu'à présent j'ai été assez négatif aussi, mais j'ai trouvé que ce numéro était quand même de meilleure qualité que les précédents. Et autant j'ai pas aimé la conclusion de l'arc, à savoir le méchant de Peter Graves. Je trouve qu'il était assez mal exploité et ça je n'ai pas trop aimé. Mais par contre les 10 dernières pages du comics, enfin avant les backups, j'ai trouvé que c'était plutôt bien écrit et j'ai bien aimé. Ça changeait de ce qu'on avait vu précédemment et même par rapport au twist qui est révélé sur la couverture, j'ai trouvé que finalement au départ j'étais en train de me dire mais non mais c'est quoi ces conneries tout ça machin. J'ai trouvé que finalement c'était bien écrit et que
il y a 3 mots hein.
Ouais, mais.
Oui. Je me sens sale, moi aussi.
Ouais, non, mais. Tu fais vachement bien le bruit de la pelle.
Non, mais ça suit aussi quand même, je trouve, le dialogue entre Diana et Steve Trevor à l'hôpital.
Oui, ça c'est bien
écrit et que je trouvais que c'était quand même plus sympa que ce qu'on avait vu jusqu'à présent. On arrive aussi un petit peu mieux à placer quand est-ce que ça se passe cette histoire, parce que on voit que les personnages savent par exemple qu'elle est la fille de Zeus, donc ça veut dire que ça se passe après les arcs de Wonder Woman qu'on a chez Azzarello, donc on peut un peu replacer les différentes histoires, ça j'aime bien un peu voir ça, et bon bah après moi faut prendre ce numéro comme une fin de saison en fait, avec plein de nouveaux twists, plein de pistes qui sont lancées sur le futur, sur justement cette nouvelle Justice League America qui va apparaître, sur le futur crossover. Il y a limite à la fin, ça fait presque comme si on voyait une bande-annonce en fait.
Oui, mais c'est ça, mais il y a pas de scénario ça. Quoi. J'ai vraiment l'impression que ce sera que des histoires sans scénario.
Bah, non, le problème c'est que les backups sont quand même plus intéressants que l'épisode en lui-même. Hein.
On voit vraiment là où ils veulent aller. Et, on voit que l'équipe commence à se déchirer. On voit que ça sera peut-être un peu plus cohérent avec les
Civil War version Justice League.
Pour moi, il y a deux problèmes majeurs dans cet épisode. Le premier problème majeur est qu'il n'y a pas de backup Shazam qui d'habitude remonte le niveau, sauf pour moi, pour le dernier que j'avais détesté, mais en général, ça remonte le niveau.
Non, ça, c'est dans le prochain Justice League, le numéro 0, qu'on aura la suite.
Mais ça manque. Le deuxième problème majeur, c'est quand même que il nous faut un double épisode pour qu'on ait la sensation qu'il se passe quelque chose. Donc, il y a clairement un problème d'écriture. Parce que là, l'épisode est quand même plus gros que la normale. Donc,
oui,
ça me gêne.
C'est pour justement lancer un peu les futures intrigues. Donc c'est normal quoi. Enfin moi j'ai pas été choqué, je suis plutôt content même d'avoir plus de pages sur la Justice League quoi au final.
Oui, mais ça veut dire que les autres épisodes, enfin on a comme la sensation que ça avance mais il nous faut un double épisode pour ça. Donc ça veut dire qu'un épisode sur deux sert à rien. Voilà, enfin c'est ça qui est gênant en fait. Enfin bon, c'est la caractérisation de Geoff Johns. Donc pour moi un bon check-it parce qu'on va être obligé de le lire pour comprendre pas mal de choses donc
Et voilà. pas de Shazam.
Ouais, pour moi c'est un check-it également, mais je pense qu'en lecture TPB, quand il sortira à partir du 8 jusqu'au 12, ça c'est un bail, parce que mine de rien, il y a quand même des dessins assez sympas, même si c'est pas du grand
Ouais,
il y a quand même de très jolies pages. Il y a un problème, je pense, parce qu'il y a un peu trop d'encreur, donc au niveau du style.
Non, mais c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il a dessiné uniquement les dernières pages. Les 4 dernières pages, quoi. Le reste, rien à foutre.
Mais les pages entre Superman et Wonder Woman, je trouve qu'elles étaient vraiment très belles. À part la couverture, j'aime pas trop. La couverture, j'aime pas. Enfin, on voit Superman qui est adepte du bondage, bof, quoi. Mais
chacun ses goûts, hein.
Mais j'ai vu
qu'il a une peau tellement indestructible, il ressent rien. Il a besoin de sensations fortes, ce monsieur.
Il y a une nouvelle couverture. Comme ça, il dit la vérité.
Voilà. Moi aussi, je veux te pénis 5, Wonder Woman. Benny.
Oui, bah, j'aurais bien, c'est dommage, il n'y a pas eu de burger avec des grains de Shazam.
Ça y est, t'as réussi à la replacer. j'ai vu une tentative tout à l'heure, je me suis dit.
c'est super drôle, dis donc. Non, bah, on recommencera.
Donc, ta note, Benny.
Un check it.
Check it. Sam.
Check it.
Et Kinghead.
Un check it.
Ok. On avance avec celui qui était un petit peu indispensable, en tout cas où il était indispensable de lire Justice League 12 avant de lire celui-ci, c'est le Justice League International Annual. On va commencer à accélérer parce qu'on est super en retard sur le temps. C'est donc scénarisé par Geoff Johns lui-même, accompagné de Dan DiDio. Eh oui, tous les deux artistes, scénaristes, pardon. Et au dessin, nous avons Jason Fabok, qui est venu se perdre sur ce dernier numéro. Que je trouve finalement pas des plus intéressants. En fait, je le trouve personnellement assez raté, parce que il est bien, mais on conclut très très vite toutes les intrigues pour se débarrasser de cette série qui, du coup, n'aura pas de suite.
Eh bien, moi, je l'ai trouvé excellent, parce que déjà, il y a Omak, qui est à nouveau écrit par Dan DiDio, donc c'est la suite, en fait, de la série Omak, donc avec le retour de Brother Eye, et on en apprend plus sur Brother Eye, sur son implication, sur le rôle de Batman dans sa création, sur la création de Omak.
Ouais, mais ça n'avait rien à foutre dans Justice League.
Bah si, dans Justice League International, ça fait plusieurs issues que Omak...
Oui, mais... Enfin, je veux dire, c'est un numéro de conclusion pour Justice League International, pas pour Omak.
Non, mais justement, il se permet de pouvoir conclure à la fois Justice League International et Omak. Et on voit aussi qu'il va y avoir la création d'une équipe un petit peu équivalente de la Justice League International, qui va s'appeler, je sais plus, les gardiens de je sais pas quoi.
Les gardiens du globe.
Voilà, les gardiens du globe avec une avec une autre un autre casting. Il y a le petit côté l'apparition de Blue Beetle. Moi, j'aime bien Blue Beetle en plus, donc j'étais content de le voir. C'est en lien avec sa série puisqu'il se fait éjecter.
Mais oui, non, mais
comme ça, dans sa série.
Ça, moi, j'ai bien aimé tout ça. Le problème, c'est que ça conclut plein de choses, sauf vraiment la Justice League International, à part l'expédier, parce que c'est véritablement de l'expédition là. On règle tous les problèmes et pour moi on les règle mal. Ce qui se passe avec la conclusion avec Booster Gold, il y a enfin un twist intéressant sur Booster Gold.
On en apprend beaucoup sur Booster Gold dans ce numéro en plus.
Ouais, mais il y a un twist super intéressant dessus et on crache complètement ce twist. Et c'est franchement n'importe
quoi. Mais non, on le crache pas. Ça va être dans d'autres séries. Ça sera dans d'autres séries. On en parlera. Il y a pas de souci quoi. Faut pas s'inquiéter.
Ah bah moi je le comprends pas comme ça. Moi je comprends une version Retour à le futur là.
Ouais, moi non.
Retour à le futur 1.
Moi, je le vois plus comme l'autre Justice League, à savoir lancer des pistes sur un prochain événement qui mettra en scène plutôt Brother Eye et les personnages de la Justice League International.
Ouais,
quoi.
Mais je t'avouerai que Brother Eye, je m'en branle quoi. Franchement, je m'en branle avec les deux mains en plus quoi.
Il y a les liens avec Maxwell Lord, il y a tout ça. Moi, j'aime bien. Donc,
c'est juste que c'était à chier dans le New 52. C'était très bien comme c'était avant. Il n'y a pas besoin de faire tous ces changements quoi. Moi ça me dérange parce que j'ai pas eu la sensation d'avoir un épisode de Justice League International, j'ai eu un épisode de Blue Beetle, j'ai eu un épisode de Omak, mais j'ai pas eu un épisode de Justice League International. Et pour une conclusion de série, je trouve ça un petit peu chiant, perso.
Non, on n'est pas d'accord, mais
pour moi.
C'est un bail, j'ai bien aimé.
J'étais quand même attaché à cette équipe et la voir se faire massacrer comme ça, ça me gêne. Surtout par un scénariste nommé Geoff Johns. Voilà. Donc pour moi, ce sera finalement c'est un pass, sauf si vous aimez les séries susnommées. Voilà. Pour toi, Kinghead?
Bah moi c'est un bail.
Un bail. Ok. Ouais. Une petite mini-série très rapidement de chez DC qui sort cette semaine, c'est Phantom Lady and the Dolman.
Oui, c'est ça, une mini-série en 4 issues avec Justin Kray et Jimmy Palmiotti au scénario et avec au dessin Kat Staggs. C'est le retour d'un personnage très ancien, des plus vieux, voire même le premier personnage féminin des comics ayant eu un rôle important. Donc là, ils le réintroduisent chez DC, donc Phantom Lady, une fille qui est capable d'utiliser une tenue spéciale pour utiliser les ombres et compagnie. Elle est assez proche de Nightshade dans ses pouvoirs. Donc on sait pas trop si c'est lié au New 52, mais bon, ça se passe en partie à Metropolis, donc à mon avis ça peut être lié. Et c'est la quête de la vengeance d'une jeune fille qui veut se venger de la pègre après la mort de ses parents. Bon, c'est non, assez classique.
C'est très Huntress.
Voilà, c'est assez classique, mais j'ai trouvé ça intéressant. Et le personnage de Dolman, en fait, c'est son meilleur ami qui c'est pareil, c'est un vieux perso et il est tout petit. Et il a la force, il est marrant. Je pense que ça sera une mini-série intéressante et c'est un check-it, quoi. Jeter un œil, voir si les graphismes ça vous plaît. Ça va pas casser trois pattes à un canard, mais c'est sympa.
On continue avec une autre sortie très attendue, c'est le Aquaman numéro 12, toujours scénarisé par Geoff Johns, qui décidément est très prolifique cette semaine. Avec Ivan Reis, bien sûr, au dessin, et Joe Prado, Auclair Albert et Andy Lanning à l'ancrage. Sixième partie, mais toujours pas la dernière de l'arc The Others.
Non, malheureusement, la dernière.
Putain, alors ça fait chier, quoi. Ça, franchement, ça fait chier de se dire « Ah, ben, c'est pas la fin. Vous aurez la suite dans deux mois. »
Alors qu'il se passe pas grand-chose, en plus. Bah, c'est très beau, mais c'est très lent et ça n'avance pas.
Franchement, il n'y aurait plus conclure, là. Hein. Il n'y aurait plus conclure.
Je crois que la dernière page, on l'a déjà eu dans les deux numéros avant.
Ouais. ça va, on a compris que tu veux buter Black Manta. Ça, on l'a compris à l'épisode 7. Hein. C'est bon. Ouais.
Mais par contre, c'est très beau et je pense que ça fera un très beau TPB, un bel arc avec des personnages intéressants. The Others, c'est des personnages que je trouve intéressants.
Malheureusement, un des The Others va encore casser sa pipe et va commencer à plus en rester beaucoup.
Voilà.
Et c'est bien dommage.
Moi, j'ai envie de dire,
pose au cul, c'est tout.
Non, mais moi, j'ai envie de vous demander, est-ce que franchement, ça a un intérêt qu'on s'intéresse encore justement à cette série, sachant que les deux artistes vont s'en aller.
C'est pas encore confirmé.
Ah si, ils en vont 16.
Non, c'est une rumeur encore. Hein. C'est pas. Ivan Reis, c'est quasiment sûr, mais Geoff Johns, ça, c'est pas encore confirmé.
Bah, de toute façon, s'il va écrire Justice League of America...
Bah non, il peut écrire 4 titres en même temps.
ouais, enfin, excuse-moi, on a vu la qualité de cette semaine.
Enfin, voilà, non, mais...
Justice League, oui.
Franchement, si c'est pour qu'il s'en aille, effectivement, au 16, tout ça pour quasiment rien, quoi. Il te sera pratiquement rien passé. Bof. Je suis vraiment vraiment mitigé, quoi.
Non, mais il y a justement à la fin de Justice League, ils nous lancent des pistes sur le futur rôle d'Aquaman et il y aura des choses à raconter dans sa propre série. Je m'inquiète pas, moi.
Bah, le truc, c'est qui pour reprendre derrière et.
Ouais, mais je pense qu'ils veulent lui donner un rôle important, donc.
Parce que bon, on a beau gueuler chaque mois que c'est super lent, et je suis le premier à le faire. Malgré tout, ça reste bien écrit.
Ah bah ouais.
Même si c'est très lent, donc. Avoir quelqu'un qui maîtrise bien un personnage dont tout le monde se foutait, c'était quand même au pari. Est-ce que quelqu'un arrivera à reprendre derrière correctement?
Moi, je pense pas. Et puis surtout, Ivan Reis au dessin. S'il n'y a plus Ivan Reis sur le titre...
Ce sera le retour de Rob Liefeld. Rob Liefeld reviendra chez DC en ayant fait des excuses sur Twitter et cette fois-ci sur Facebook, pour ajouter. Et il reviendra scénariser Aquaman avec des jolis dessins et des torses monstrueux. Et des gros flingues. Des gros flingues qui tirent sous l'eau.
N'oublions pas. Aquaman,
il en est capable.
Aquaman Captain America.
Aquaman America. donc, pour moi, un bail quand même.
Oui.
Check-it pour toi, Sam. Benny?
Non, un check-it.
Check-it aussi?
Ouais.
Ok, deux bails, deux check-it. Faites-vous votre avis. On continue très très vite avec Morning Glories.
Oui, le numéro 21 par Nick Spencer au scénario et Joe Esma au dessin. Donc, beaucoup de dessins parce que c'est quand même 40 pages l'épisode. Toujours à 3$.
Mais cette semaine, sérieux, faut arrêter les numéros doubles ou triples. Hein. Là, c'est bon.
Oui, non, mais surtout là, que c'est pas simple à lire, hein, franchement, parce qu'il y a la moitié de l'épisode en flashback, l'autre sur le présent. En plus, les flashbacks sont à différentes époques. Donc déjà que c'est pas simple, Morning Glories à suivre en général. Là, c'est encore plus compliqué d'habitude, avec une demi-douzaine de nouveaux personnages. Donc, je pense que je vais aller me relire les 20 épisodes précédents pour essayer de comprendre.
Bah, bonne chance.
Alors, la cover est hommage à la première, d'ailleurs.
Voilà, avec les fameux nouveaux personnages que j'évoque. Donc, ça reste bon, mais la vache, ça fait mal à la tête, hein.
Ok.
C'est toujours le même dessinateur à l'intérieur?
Oui. Mais ça s'améliore d'épisode en épisode, franchement.
Ah bon. D'accord.
on sent le mec convaincu, on sent le mec trop convaincu. Ah bon?
Ça m'a plombé quand même mon intérêt pour la série, quoi. Tellement j'accrochais pas au dessin.
Méchant pas beau.
C'est plutôt les dessins qui sont méchants pas beaux.
Arrête, tu vas devenir comme les gardiens après. On continue avec le Mass Effect numéro 4.
Donc pour cet épisode, on retrouve Mark Walters et Sylvia Feketekuti au scénario.
Feketekuti maintenant.
Donc c'est pour l'histoire. Ensuite au script, on a Jeremy Barlow et au dessin, on a Omar Francia. Et okay. Je passe sur les cover artistes et compagnie. Désolé.
Non, mais c'est pas grave, on n'a pas le temps.
Donc le principe de Mass Effect Homeworld, c'est qu'on va suivre des personnages des jeux vidéo sur ce qui se passe un petit peu avant Mass Effect 3. Donc ce coup-ci, c'est le professeur Lyra Tsioni, qui est une experte dans l'histoire des protéines. Donc c'est la race extraterrestre qu'il y avait bien avant les événements de Mass Effect, et qui donc en gros est une archéologue experte là-dessus, et elle a pris le rôle du courtier de l'ombre. Donc c'est un peu un service de renseignement secret de l'univers qui bosse pour lui-même.
Bon, Sam, comme moi, je crois que tu captes rien.
Ouais.
Ok, voilà. Moi, je suis pas tout seul, ça me rassure.
Donc c'est ce que j'allais dire, c'est pas mal, mais il faut avoir joué à Mass Effect pour comprendre un petit peu ce que ça raconte. Quelqu'un qui connaît pas du tout le jeu vidéo Mass Effect et qui veut découvrir par ce biais-là, c'est même pas la peine. Ensuite, j'ai trouvé l'histoire, je trouvais qu'elle était pas mal, mais pas non plus excellente. Ça fait vraiment rappel à beaucoup d'éléments de la série. Et c'est intéressant, ça permet d'installer un petit peu l'intrigue qu'on va trouver dans le 3. Mais voilà, quoi. Bien, mais sans plus. Les dessins sont par contre assez agréables à voir. Donc, je sais pas ce que t'en penses, Kim.
Ouais, en fait, graphiquement, c'est le meilleur des quatre. C'est celui aussi qui est apporte un petit peu le plus par rapport au background du jeu. Malgré tout, il sort avec 8 mois de retard, quoi. Fallait le sortir avant Mass Effect 3 parce que maintenant, c'est un petit peu trop tard. C'est pas indispensable. Ils se sont pas cassés, quoi, pour le scénario. Franchement, toute cette mini-série, je la conseille pas. Ça a beau être des petits one-shots, c'est pas suffisant. Pour moi, c'est un check-it moins tendance passe. Je suis très déçu. J'aurais préféré vraiment des histoires nouvelles sur l'univers Mass Effect et pas que des trucs qui raccrochent au jeu, quoi. Donc, voilà.
Ok.
Pour moi, c'est un check-it pour les gens qui ont joué à Mass Effect et un pass pour les autres. Parce que vous allez être largués, sinon.
Ouais. J'ai déjà rien compris ce que vous avez raconté.
Je confirme, là, on est out.
C'est promis, un jour je m'y mettrai, mais là, j'ai pas le temps. On termine avec la sortie du dernier épisode de Grim Reaper, Love Story to Die For, c'était son sous-titre. C'est toujours scénarisé par Curtis G. Webb et dessiné par Aluzio C. Santos. Tu l'as lu aussi, Sam, tu t'y es mis. Conseils.
Sur tes conseils, voilà, t'avais dit que c'était sympa. Donc, effectivement, c'est la conclusion de la mini en 4. Donc assez rapide, où on suit donc les personnages Lou et Ella qui n'arrêtent pas de mourir et de se retrouver et de tomber amoureux. Et c'est très mignon cette conclusion. C'est très, je vais pas dire à l'eau de rose quasiment, mais presque.
Oh, c'est une sorte de happy ending, quoi. Il y a un happy ending, mais c'est vrai que ça se lit très rapidement parce qu'on a beaucoup de pages sans bulles. Mais finalement, quand on a suivi cette série depuis le numéro 1, bon, on a juste envie qu'ils se retrouvent, quoi.
Voilà, donc, ils sont heureux et
les voir se préparer dans des cases face à face, je veux dire, ça fait son petit effet, quoi. C'est sympathique. Qu'est-ce que t'as pensé de la mini en général, toi, Sam?
Très sympa dans l'ensemble, assez drôle par moment, pas mal trash quand même.
Ah ouais, il y a des scènes graphiques.
Voilà, mais au moins on rigolait un peu. Et voilà, on voulait. Au bout d'un moment, tout ce qu'on veut, c'est qu'ils finissent ensemble et que ça finisse bien.
Ouais, et puis bon, cette fin qui est super comique, voilà, c'est juste énorme. Kinghead, deux séries, on a converti ça à deux trucs.
Ouais, c'est pas mal. Hein.
Moi, je dis bravo.
C'est qu'en ce moment, Sam, il est plutôt positif, donc ça change. Ouais.
C'est la rentrée. C'est la fin de l'été, il a moins chaud, il sent mieux, et voilà. Ouais. Alors, on termine avec toujours un petit backup, une autre petite story, More Love Stories to Die For.
C'est un classique.
Ouais, voilà, noir et classique, et scénarisé par Ed Brisson et dessiné par Johnny Christmas.
Voilà, ça nous change du mec qui voulait noyer sa copine dans du vomi le mois dernier.
Elle était trash celle-ci, putain.
Ouais, elle était dégueu.
C'était ignoble. Donc, bah, si vous avez suivi la série, c'est clairement un bail. Cette mini-série est un bail dans l'ensemble. C'est pas un truc qui va changer la face du comics à tout jamais. Mais on passe vraiment un très bon moment. Ce sera un très bon TPB. Pour ceux qui...
Moi, vous m'avez donné envie.
Pour ceux qui voudraient s'y mettre, bah non. Attendez le TPB, clairement. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On a même peut-être dépassé sur le temps d'ailleurs.
Ouais, juste je voulais préciser pour le Superman Annual, Pascal Alix, en fait c'est même un artiste français là, j'ai vu, et donc j'ai beaucoup aimé son style, et donc voilà, j'espère qu'il aura d'autres gros titres. J'ai vu qu'il avait fait déjà pas mal de choses avant, mais voilà, chez DC, c'est bien.
Ok, voilà. T'as deux petits trucs à nous citer là vite fait qu'il aurait fait des plus connus.
Parce que bah, là je les ai pas ici, mais
D'accord, bon c'est pas grave. Wouh, un gros vent. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un prochain Comics Weekly, bien sûr.
Plus petit.
Peut-être plus petit, ouais. Quoique il y a des gros titres encore la semaine prochaine, je crois.
Il y a les numéros zéro.
Il y en a toutes les semaines maintenant.
Et ouais, il y a le numéro 0 avec non pas 52 mais 55 titres, puisqu'on a 13 épisodes la semaine prochaine. La deuxième semaine nous en avons 15 et les deux semaines suivantes nous en avons 14 et 14.
Alors, dès qu'on aura fini les trucs zéro, on aura Marvel Now.
On va être clair tout de suite, on avait essayé de tous les faire l'an septembre dernier, les numéros 1, là on va pas tous les faire, on n'aura pas
non, 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 non.
Là, franchement, moi je m'en fous.
Il y en a certains dont on en a rien à foutre, c'est clair.
Parlez pour vous.
Ah non, franchement, tu crois qu'il va lire tous les numéros 0? Ça m'étonnerait.
Ah, non, peut-être pas.
Ouais.
Voilà, faire beaucoup d'unspoken, on n'aura pas le temps de tous les placer en émission. Allez, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un prochain weekly, mardi pour le weekly news, comme chaque semaine, et puis bien sûr très bientôt pour un Comic City, la version VF, hein, qui débarque au mois de septembre, cette nouvelle formule. D'ici là, comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver bien évidemment sur le site avec les news de Corwin, les guides et les tops de Sam, et puis des unspoken en fonction du temps. En ce moment, on n'a pas beaucoup de temps, donc c'est pour ça que
non, c'est pas génial,
là, un petit peu vide. Mais rassurez-vous, la rentrée approche et on va pouvoir se remettre au travail bientôt. J'espère. D'ici là, bien sûr, vous nous retrouvez sur Facebook, sur Twitter, @ComicCity. Et puis, bien sûr, vous pouvez nous envoyer des mails. L'adresse est podcast@comiccity.fr. Et si vous avez envie de réécouter une émission passée, n'hésitez pas. Vous pouvez tout trouver sur iTunes. À la semaine prochaine, tout le monde.
À plus,
à bientôt. Ciao.